France Culture. Question du soir, Quentin l'a fait.
Un score écrasant et troublant le 5 mai dernier en Roumanie. Georges Simion, candidat d'extrême droite proche de Giorgia Meloni, a obtenu plus de 40% des voix. C'était en Roumanie et c'est tout un système démocratique qui semble aujourd'hui déboussolé par la montée du nationalisme et par les ingérences étrangères aussi et l'usage déréglé des réseaux sociaux qui favorisent l'inattendu et l'extrême. Alors comment ces réseaux sociaux, les algorithmes, redéfinissent notre rapport aux politiques et au-delà, à la vérité, à la connaissance, à la science, à la confiance et à notre capacité à vivre ensemble, en un mot, au réel. Et pour tenter de le comprendre, un invité ce soir, Mickaël Lenné. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université Paris 8, spécialiste des émotions, de la croyance et de l'économie écologique. Vous venez de faire paraître l'ère de la post-vérité, comment les algorithmes changent notre rapport à la réalité. C'est aux éditions La Découverte. Merci d'être avec nous ce soir.
Merci de l'invitation.
Nous sommes en train de faire face à un coup d'État. Monsieur Georgescu a présenté sa candidature au bureau central des élections et avec 10 votes contre 4, elle a été rejetée.
Nous soupçonnons des acteurs étrangers d'utiliser TikTok pour interférer dans les élections présidentielles roumaines.
Rejeter un candidat avec 350 000 signatures n'est ni juste ni normal. C'est pourquoi nous sommes là rassemblés dans les rues pour défendre nos droits légitimes, les droits que nous devrions avoir. Ils n'existent plus.
Comment est-ce que vous comprenez, Mickaël Lenné, ce qui s'est passé il y a quelques mois d'abord, il y a quelques semaines ensuite en Roumanie, et notamment l'impact des réseaux sociaux et de TikTok sur cette démocratie, sur ces élections présidentielles en particulier ?
Oui, alors ça vient démontrer que de manière générale, les algorithmes, loin de relayer de façon neutre des informations, nous influencent, influencent à la fois nos raisonnements, nos émotions, nos croyances, et également ne constituent pas du tout une agora où les idées politiques seraient à l'égalité, mais favorisent un peu partout dans le monde, pas seulement en Roumanie, les idées d'extrême droite.
Est-ce qu'on a eu tort de penser que, dans le fond, l'ère de la post-vérité avait seulement envahi les États-Unis, mais bien au-delà, on est concerné, directement concerné par cette tendance-là en Europe?
Oui, on est tout à fait concerné par cette tendance-là en Europe, puisque, de manière plus générale, on pourrait dire que pour des masses croissantes d'individus, l'intelligence sert moins à rechercher la vérité qu'à conforter les croyances, faire briller l'image de soi et à rationaliser les impressions émotionnelles que laissent les algorithmes jusqu'à propager l'ignorance et rejeter la science. Et ça a un impact aussi sur les idées politiques puisque les algorithmes obéissent en fait donc ces règles qui structurent le cyberespace, à la fois les réseaux sociaux et Internet, aussi dans nos moteurs de recherche type Google, quand on tape des requêtes et on souhaite se renseigner sur quelque chose. Ce sont la même type de logique qui unit tout ce cyberespace, une logique qui pousse à deux choses, donc nous conforter dans nos croyances, puisque c'est en nous présentant un contenu qui nous conforte dans nos croyances qu'on est plus incité finalement à interagir avec le contenu proposé, à interagir longuement avec le contenu proposé. C'est ce qu'on appelle l'engagement, qu'on essaie d'optimiser. Et par ailleurs, une autre logique est celle de l'évolution des croyances, puisque ce qui va faire qu'on s'engage avec le contenu proposé, eh bien, c'est certaines émotions incontrôlables. Au premier rang desquelles, la peur, l'indignation, la colère. Or, ce cocktail émotionnel, ce bain émotionnel dans lequel on se trouve plongé à la longue, incline à adhérer aux idées d'extrême droite. Et cela s'est éprouvé dans de nombreuses études empiriques sur la question.
Je voudrais vous faire entendre la voix de David Collomb, il est professeur à Sciences Po. Il travaille lui aussi sur ces ingérences étrangères et les technologies qui les permettent.
L'IA générative permet de démultiplier par exemple le nombre de faux comptes que l'on va créer, permet de les rendre beaucoup plus crédibles avec une activité proche de celle des humains, permet également de produire des deepfakes de plus en plus convaincants. Elle permet enfin de produire des faux sites d'informations générales ou d'informations locales. Depuis juin dernier, il existe davantage de faux sites générés par intelligence artificielle aux États-Unis pour la presse locale que d'authentiques sites de médias locaux. Et l'une des craintes pour les prochains mois ou les prochaines années en France, c'est éventuellement la création de ce type de dispositif qui existe aux États-Unis, qui existe en Allemagne. Nous savons aussi que l'IA permet de démultiplier les attaques menées par les opérateurs tels que Doppelganger et son opération Matryoshka contre les journalistes chargés de la vérification des faits. Il s'agit de saturer nos espaces informationnels de contenu soit favorisant les intérêts du Kremlin, soit sapant notre capacité à distinguer le vrai du faux.
À qui la faute alors, Michael Lenné ? À nous, citoyens, faibles, à nos émotions, j'allais dire, erratiques, et à celles que vous avez décrites ? Ou plus largement, est-ce la responsabilité de la superpuissance de ces nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle que l'on entend décrite ici ?
Alors, je pense que donc le problème soulevé par David Collomb est relativement mineur, même s'il est grave et préoccupant. Je pense que, en fait, c'est toute la force d'un système que d'obtenir de nous la complicité, notre complicité inconsciente. Justement, parce que si on délimite trois besoins fondamentaux en tout un chacun, on pourrait discerner l'existence d'un besoin de vérité, en ce que la vérité conditionne le succès dans nos actions. Un besoin de sécurité cognitive, qu'on peut appeler un besoin de sens, hein, le monde est plus rassurant s'il fait sens, et un besoin d'affection qu'on peut décliner en amour propre et en attachement au groupe. Et on peut montrer, je montre dans ce livre, que les algorithmes s'adressent en priorité aux deux derniers besoins.
Pas du tout au besoin de vérité. Alors, le besoin de vérité est, selon vous, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs, relégué largement dans les limbes justement de ce que peuvent permettre les réseaux sociaux et les algorithmes.
Pas tout à fait, c'est plus subtil et plus complexe et plus déroutant que cela. Il satisfait aussi notre besoin de vérité, c'est pour cela que c'est complexe. S'il ne satisfaisait pas notre soif de vérité, évidemment, les choses seraient très simples. Non, il satisfait aussi cela et c'est pour cela qu'on peut se leurrer. Hein, puisque personne ne peut être à l'aise avec l'idée qu'il en sait très peu de finalement sur le monde, qu'il comprend finalement très peu de choses sur le monde en dehors de ses compétences professionnelles, en dehors de son domaine de formation, ce qui est pourtant le cas. Donc, en fait, les réseaux sociaux nous permettent d'enjamber nos doutes et de trouver l'image d'un monde plus conforme à nos propres représentations quand nous en avons, ou bien un monde fait de fiction, d'émotions, et donc à charge pour notre esprit, finalement, de venir élaborer des raisons d'y croire, ce qu'on appelle la rationalisation en psychologie. Hein, il va obtenir ça de nous, les algorithmes vont obtenir ça de nous. Je précise bien qu'il ne s'agit aucunement d'un complot, il s'agit bien d'une logique économique, hein, puisque pour maximiser les revenus publicitaires, les entreprises qui sont derrière ces algorithmes ont donné des objectifs aux algorithmes. Hein, comme je vous ai dit, interagir longtemps et augmenter les chances d'interaction avec le contenu proposé.
Mais des raisons d'y croire, Michael Lenné, on est loin, là encore, de la définition de la vérité. Même quand vous parlez de rationalisation, comment, j'allais dire, ces réseaux sociaux, ces algorithmes permettent de proposer une version de la vérité ?
Alors, comment ils permettent de proposer une version de la réalité ? Les réseaux sociaux vont renforcer le poids du groupe. Hein, on est sensible, quand on est inscrit dans un réseau social, à l'appréciation positive des autres. Il y a des expériences qui le démontrent. Une première expérience vous montre que... alors, en dehors même d'ailleurs des réseaux sociaux, hein, si on regarde les sites internet, si on a un site internet avec deux sites internet avec un contenu identique, selon que le premier commentaire est positif ou négatif, l'appréciation moyenne des commentaires sera plus positive de 32% ou plus négative de 32%. Donc ça, c'est déjà une première étude qui vous montre l'avis des autres, mais plus spécifiquement sur les réseaux sociaux, là encore, vous avez différentes études. Je voudrais en citer une qui me semble très intéressante, qui est la suivante. Si vous donnez une même information à différents groupes d'individus, des individus qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux et des individus qui ont accès aux réseaux sociaux, vous percevez, et bien évidemment, vous demandez à tous les individus en laboratoire, il s'agit d'une expérience de laboratoire que je vous raconte ici, vous demandez à tous les individus si l'information est vraie ou fausse. Eh bien, le simple fait de se poser la question typique des réseaux sociaux, est-ce que je partage ce contenu ou pas ? Le simple fait de se poser cette question réduit le discernement de 18%, c'est-à-dire que les gens se trompent à 18% de plus. Mais si en outre l'ordre des questions est inversé, c'est-à-dire qu'on se demande d'abord est-ce que je partage ou pas, avant de se demander est-ce que cela est vrai ou faux, on est 35% moins capable de discerner le vrai du faux. Et d'ailleurs, d'autres études vous montrent, via l'imagerie cérébrale, que lorsque l'on se pose la question du partage, en fait, ce sont les zones cérébrales de l'image de soi, de la réputation, qui sont activés. Ce qui veut dire que, en fait, et c'est là où l'influence est subtile, il n'y a pas forcément, vous voyez, d'intention derrière tout ça, mais c'est là où l'influence est subtile, c'est qu'il y a un conflit cognitif qui se déroule en chacun de nous. Qu'on en ait ou non conscience, en général, on n'en a pas conscience. Évidemment, si on interroge les individus, non, mais vous savez, moi, je suis objectif, je pèse vraiment, voilà, je pèse le pour et le contre. Donc là, on est typiquement dans l'image de soi. Mais il y a, en fait, un conflit cognitif entre le souci d'être dans le vrai et le souci de la réputation. Et ça crée un brouillage, ça, de l'entendement. Et ça, c'est une influence invisible. Et c'est en ça que je dis que la post-vérité, c'est une ère où l'image de soi importe plus que la réalité, où l'image du monde importe plus que la réalité, parce que ça se passe par-devers nous, avec notre complicité inconsciente.
Je vous cite, Michael Lenné, vous écrivez « Plus on déforme la réalité, plus on affiche son attachement à elle, plus on refoule ses doutes, plus ceux-ci reviennent comme un boomerang dont on se protège par un renforcement des certitudes. Appelons post-vérité ce phénomène social majeur de notre temps. En première approximation, il désigne une situation où les croyances sont plus importantes que la vérité, où la subjectivité supplante l'objectivité. » Justement, racontez-nous cette façon d'appréhender le monde. Qu'encadre la post-vérité ?
Eh bien, comme je vous l'ai dit, donc c'est la post-vérité va permettre, enfin, les algorithmes, ce qu'ils vont permettre, c'est justement nous conforter dans nos croyances, justement de satisfaire les besoins de réputation, les besoins d'amour propre, l'attachement au groupe, mais ils vont également mettre en avant des contenus clivants et anxiogènes. Je vous ai dit qu'il y avait deux logiques à l'œuvre. Une logique qui consiste à provoquer des émotions incontrôlables. Mmh. Et parmi ces émotions incontrôlables, typiquement la peur, l'indignation, la colère, il a été prouvé notamment que sur X, les contenus à connotation négative sont amplifiés de 26% avant même leur achat par Musk. Il a été prouvé également que le suggestion de Google, vous savez, quand vous commencez à taper un mot et il propose d'autres résultats de recherche, eh bien les mots à valence négative, c'est-à-dire les mots à connotation négative, suscitent 10 à 15 fois. 15 fois plus de clics. Donc il y a véritablement un biais de négativité. Et on n'est pas en mesure véritablement de maîtriser les émotions. On peut savoir que l'on ressent une émotion, mais ça ne suffit pas à maîtriser les effets de cette émotion. Et notamment, c'est à l'origine du fait que les gens ont de plus en plus peur, cet environnement. Parce qu'attention, il y a une erreur à ne pas commettre, une naïveté à laquelle il ne faut pas succomber, qui est de croire que parce que on n'est pas sur les réseaux sociaux, on serait indemne de toute influence. Or, d'une part, les médias traditionnels se servent des réseaux sociaux, en particulier de X, comme d'un sismographe de l'actualité, comme un baromètre de l'opinion publique, qui finalement, il faudrait pressentir ce qu'il fait. Il a été prouvé qu'une hausse de 55% des tendances sur X, ce qui est en soi peu de choses, se traduit par une augmentation de 17% de la probabilité que ces sujets soient traités dans des médias traditionnels. Mmh. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et deuxième point, à une heure quand même, à une époque où aujourd'hui, les gens tendent à s'informer majoritairement en ligne, on peut aussi être influencé par les discussions que l'on a avec des individus qui, eux, sont complètement immergés dans les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, si bien qu'on peut difficilement dissocier ce qui relèverait du monde numérique, du cyberespace purement, et ce qui relèverait du hors-ligne.
Qu'est-ce que la notion employée, utilisée notamment par les économistes de sophisme, de composition, et comment elle permet de comprendre justement ce que vous décrivez ici ?
Oui. Oui, parce que, en fait, ce que je démontre dans l'ouvrage aussi, c'est que, contrairement à la légende dorée d'Internet, Internet ne fait moins progresser les connaissances et l'intelligence que ce qu'on aurait cru, et fait peut-être un peu plus progresser l'ignorance. L'ignorance, il faut savoir que ce n'est pas du tout le blanc de la page ou vide de l'esprit. Un ignorant va produire beaucoup de phrases, va produire beaucoup de raisonnements apparents. Et en économie, la traduction véritablement de l'ignorance, c'est ce que un économiste récipiendaire du prix Nobel, Paul Samuelson, appelait le sophisme de composition. Ça consiste finalement à appliquer une grille de lecture valable pour un individu, une entreprise, à la compréhension de l'économie en entier. Attention, il ne s'agit pas d'une généralisation abusive, c'est pas ça qui est visé. Ce qui est visé, c'est-à-dire que le raisonnement au niveau macroéconomique, c'est-à-dire le niveau le plus intéressant en économie, pourquoi il y a crise, pourquoi il y a chômage, etc., est tout à fait différent du raisonnement microéconomique. Et rabattre l'un sur l'autre conduit à voir complètement de travers l'économie. Une illustration typique tient à l'analyse du budget de l'État, typiquement. On fait le parallèle implicite, très souvent dans les médias, c'est rarement assumé, mais c'est implicite, parce que que c'est un parallèle finalement lié à l'ignorance. On fait un parallèle implicite entre le budget de la ménagère et le budget de l'État. Or, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que l'État, par ses décisions de dépenses et par ses décisions d'imposition, va influer sur l'activité économique. Or, les recettes de l'État vont dépendre de l'activité économique. Or que, pour un ménage, votre niveau de revenu est totalement déconnecté de votre niveau de dépenses. Vous pouvez flamber, aller au casino tous les soirs, vous pouvez voyager, même brûler votre argent, ça n'influencera pas votre revenu. Or, par son niveau de dépenses, l'État va influencer l'activité économique, ce qui est par ricochet, puisque les impôts et taxes sont liés à l'activité économique, va avoir une influence sur ses propres recettes. Donc, les grilles de lecture ne sont pas du tout transposables. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'ignorance consiste aussi à plaquer un jugement moral, en fait, à substituer au jugement causal, qui est le propre de la science, un jugement moral. Et donc, ça conduit à beaucoup de visions erronées. J'en veux pour illustration le rôle de la valeur travail. Alors c'est vrai que dans le monde politique et médiatique, on parle beaucoup de la valeur travail comme si le travail causait les richesses. Et bien même beaucoup de personnes que je ne citerai pas soutiennent cela. Or c'est absolument absurde. C'est un oubli des causalités économiques élémentaires, hein, puisque finalement ce n'est pas le travail qui crée la richesse, mais la richesse qui crée le travail. Imaginez-vous votre boulanger. Ce n'est pas parce que il va produire deux fois plus de croissants qu'il va vendre deux fois plus de croissants. Et au contraire, c'est parce que il va en vendre plus qu'il va travailler plus. Vous voyez, c'est la causalité, en fait, est inversée.
Et donc c'est l'oubli... une dimension morale qui justement le réel et la perception du réel.
Tout à fait. Une dimension morale va tout à fait déformer la perception du réel. Et d'ailleurs, à ce sujet, on aurait tort de croire que les électeurs d'extrême droite sont immoraux. Ils sont au contraire très moraux, mais c'est parce qu'ils aussi, entre autres choses, ils tendent à substituer une interprétation morale à ce qui nécessiterait une interprétation causale informée par la science.
L'analyse de Jean Baudrillard, il s'exprimait en 1983.
Je crois que c'est la chose pour nous l'événement le plus actuel, ce serait ça. Ça serait cette espèce de gonflement de l'information, de protubérance de toute l'information, la communication. Et il y a trop de messages, il y a trop de sens, il y a trop de médias. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de sens. Oui, ça serait la dévoration du sens par les moyens même d'en produire, quoi. Mais ça, on pourrait faire la même analyse pour la production que pour l'information. Somme toute, il y a assez longtemps que la production, elle aussi, a excédé son champ, enfin saturé tout son champ, et maintenant dans une espèce de surproduction, d'excroissance plutôt que de croissance, dont on ne sait plus si elle correspond quelque part à une quelconque richesse sociale, pas plus qu'une information, à un échange de signification. Alors ces choses-là sont devenues en quelque sorte, c'est ça, obèses, monstrueuses, enfin, elles ne savent que saturer un champ, et il n'y a plus la distance possible pour les transformer, enfin pour transformer à la fois le monde et le social.
Quel est l'impact, Michael Lenné, de la saturation du champ de l'information, justement, sur la perception que nous avons du réel? À quel point cette saturation déforme notre perception du réel?
Eh bien, il a été prouvé dans des études empiriques que cette saturation élève le niveau d'angoisse. Ça fait partie des raisons pour lesquelles cette extension du cyberespace qui envahit toutes nos vies participe, hein, cause une montée des peurs collectives. Alors il y a d'autres raisons. Il y a donc la mise en avant de contenus clivants, comme je l'ai dit, clivants et anxiogènes. Il y a le fait aussi que les réseaux sociaux nous font pénétrer dans un univers de comparaison permanente, où on est déchiré entre la volonté de se présenter sous son meilleur jour et le souci de présenter son moi authentique. Et donc, il a été prouvé par d'autres études empiriques que l'intensité d'usage des réseaux sociaux est étroitement corrélée à la dépression, au mal-être et à la peur. Par ailleurs, les réseaux sociaux ont tendu à remodeler nos horizons temporels. Aujourd'hui, l'attente devient intolérable. L'ennui devient intolérable aussi. Tout ça, c'est facteur de stress, hein. On vit dans l'illusion de l'imminence de l'événement, ce qui fait qu'en moyenne, un utilisateur de smartphone va consulter son téléphone pour 221 tâches par jour. Donc c'est énorme, et ce n'est qu'une moyenne, donc autant vous dire que certains des individus développent une véritable addiction avec toute la fébrilité que l'on peut deviner derrière. Mais il y a aussi quelque chose de plus subtil. Si on reprend les grilles d'analyse freudienne, Freud nous dit deux choses. L'angoisse naît à la fois de la tension des besoins inassouvis. Donc est-ce que cet univers qu'on nous promet merveilleux dans la société de consommation, de réalisation de soi par la consommation, ne repose pas, et comme le disait Baudrillard, sur l'écart croissant entre les envies suscitées et ce que le système permet d'assouvir ? Et donc, ça générerait trop de besoins inassouvis, ce qui se traduit ensuite par l'anxiété. Deuxième cause d'anxiété, selon Freud, c'est la culpabilité inconsciente. Finalement, puisque les réseaux sociaux nous permettent, poussés à l'extrême, de nous isoler dans des bulles cognitives, hein, où on est tellement conforté dans ses croyances que l'on ne perçoit plus du tout le réel, on ne comprend plus du tout les autres façons de raisonner, mais cela, l'inconscient le sait, qu'on est dans une bulle cognitive. Donc, il va punir l'individu par ce sentiment de culpabilité inconscient qui se traduit de façon perceptible par de l'angoisse. Et l'angoisse, il ne faut pas croire que c'est un simple affect, ça va influer sur nos cognitions, ça va influer sur nos croyances.
Vous parlez régulièrement du désir hein, qui revient justement régulièrement dans vos analyses. Oui. Quid du désir de croire en sa propre image, en l'image qu'on a façonnée de soi-même sur les réseaux sociaux, qui est souvent bien distincte d'ailleurs de l'image ou de même ce que l'on est, ce que l'on représente dans le réel.
Oui, je pense qu'en fait, avec ce qu'on pourrait appeler le cybercapitalisme, c'est-à-dire le cyberespace tel qu'il a été dessiné par les entreprises capitalistes, s'accomplit finalement une promesse qui est celle du capitalisme depuis l'origine. Le capitalisme, à mon sens, s'il a survécu jusqu'à aujourd'hui, malgré les nombreuses crises qui l'ont traversé, c'est parce qu'il repose sur la promesse de satisfaction de tous les désirs. Et y a-t-il désir plus intime que de croire à sa propre image, que de croire que le monde est conforme à l'image que l'on s'en fait. Y a-t-il le désir plus intime ? Et donc, au fond, les algorithmes s'adressent à cette part intime de nous-mêmes dont nous serions bien en peine de circonscrire l'influence. Et c'est pour ça qu'il est aussi séduisant. Et c'est pour cela qu'on y plonge avec toujours plus de délices et on y consacre toujours plus de temps. Et c'est pour cela qu'il sera également difficile de faire bouger le système.
Alors après ce diagnostic que vous avez posé, que fait-on, que doit-on faire, que peut-on faire ? Premiers éléments de réponse, là encore une fois, par David Collomb. Il parle des interdictions qui sont, selon lui, contre-productives.
Je crois que les interdictions sont toutes contre-productives. Et elles encouragent la défiance. Elles encouragent le doute à l'égard des autorités quant à ce qui peut les avoir conduits à interdire un réseau. C'est la raison pour laquelle je plaide, pour ma part, plutôt pour la création d'un concurrent intègre, un média social d'intérêt général qui serait chapeauté par une fondation européenne à but non lucratif, qui reposerait sur des algorithmes transparents, qui ne reposerait pas sur une publicité ciblée. Et nous aurions alors l'opportunité de mettre nos esprits à l'abri des manipulations d'informations.
Que doit-on faire alors ? On interdit, on régule, on acculture ? Comment est-ce qu'on lutte contre tout ce que vous décrivez là ?
Alors, je pense pas que ça puisse passer par l'interdiction, mais à tout le moins par une régulation très forte. C'est-à-dire que, ou bien il faudrait inventer un statut d'entreprise spéciale pour les entreprises qui conçoivent ces algorithmes. Un statut spécial, c'est-à-dire que la finalité ne serait pas la poursuite des profits. Tout comme il existe des mutuelles ou des associations de loi 1901 dans notre pays, et ça ne change pas la nature capitaliste de notre système économique, de même, il faudrait concevoir cela. Parce que c'est parce que les entreprises cherchent à maximiser les profits qu'elles optimisent l'engagement. Et donc, il y a tous ces biais que je documente dans mon essai, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Donc ça serait vraiment une réponse. À tout le moins, il faudrait faire ça. Et peut-être même pourrait-on concevoir un autre modèle économique, puisque finalement, nous sommes également très loin d'un début de résolution à tous les graves problèmes écologiques auxquels nous sommes affrontés, du réchauffement climatique à la 6e grande extinction de masse du vivant, aux limites planétaires que nous franchissons allègrement une à une. Et donc peut-être que finalement nous pouvons voir là une sorte de convergence des luttes qui appellerait un type de réponse similaire, à savoir l'invention, la nécessité rationnel, logique, d'inventer un autre modèle économique. Je ne dis pas forcément que j'ai une réponse à ce sujet, mais en tout cas, de toute façon, ça nécessiterait une autre émission. Mais en tout cas, on peut considérer que ça met en évidence cette nécessité.
Vous établissez dans votre essai un autre diagnostic que je voulais vous permettre de commenter. Celles et ceux qui auraient le plus besoin de lire ce livre, le vôtre en l'occurrence, sont ceux qui seront le moins susceptibles de le lire. Mais que faire face à la sidération ? Alors pourquoi vous établissez ce constat et comment vous avez pu du coup écrire ce livre malgré tout ?
Oui, c'est-à-dire que je voulais avant tout être lucide. S'il est quelque chose, une expérience très commune quand même dans nos relations sociales, c'est que l'on tend plutôt à prêcher les convertis ou à ceux qui sont presque convertis. Donc c'est tout simplement le reflet d'une loi sociologique qui fait qu'on appelle l'homologie sociale. Voilà, on tend à s'apparier avec des personnes qui ont des horizons, des référentiels communs, même forme de capital culturel ou économique, etc. Donc ce qui fait qu'il est difficile de s'adresser aux personnes qui en auraient le plus besoin. Pour autant, si je dis ça, c'est simplement par lucidité, me semble-t-il, pour autant, je crois ouverture de la discussion. Et je crois que cet ouvrage, à tout le moins, pourra fournir des arguments aux lectrices et aux lecteurs qu'ils pourront mobiliser dans les discussions qu'ils ont avec leur entourage. Et par là, ils pourront petit à petit amener leur entourage à douter ou à les convaincre sur certains points pour faire bouger petit à petit les choses. Je ne dis pas que ça sera facile, mais en tout cas, je crois encore au pouvoir de la raison et encore heureux. Et c'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre. Et le pessimisme du diagnostic n'implique pas le pessimisme de la solution.
Alors, on en rappelle le titre justement de cet ouvrage, L'ère de la post-vérité, comment les algorithmes changent notre rapport à la réalité. C'est à la découverte. Merci, Michael Lenné.
Merci.